Saviez-vous qu'une station de ski, comme Tremblant, ou un théâtre, comme le TNM, partage ce modèle d'affaires? Ou encore que notre fameuse chaîne Tim Hortons a inventé un nouveau modèle d'affaires dans les années 60, qui a ensuite été copié par McDonald's? Ah, et en parlant de McDo, croyez-le ou non, son modèle d'affaires a été copié lui aussi par une compagnie aérienne, Southwest Airlines. Bienvenue dans l'univers fascinant et innovant des modèles d'affaires. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président à la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Surtout, je suis un passionné de modèles d'affaires. Vous avez peut-être remarqué que dans mon introduction qui précède chaque épisode, je vous mentionne qu'il existe 60 modèles d'affaires et qu'une PME typique en utilise entre 3 et 8. Ensuite, à la fin de chaque épisode, je vous décris sommairement les modèles qui ont été discutés avec mon invité. Certains d'entre vous m'ont écrit pour me dire que vous étiez intrigués. On entend quoi par 60 modèles? Comment on sait qu'une entreprise en a plusieurs? Pour répondre à ces questions et démystifier ce que c'est un modèle d'affaires, je débute cette deuxième saison avec cet épisode hors série. À la base, l'utilisation du mot « modèle » veut dire qu'on peut modéliser quelque chose, le réutiliser pour en discuter avec les gens autour de nous et savoir que l'on parle tous de la même chose. Par exemple, quand vous parlez d'un modèle automobile et que je vous dis « Toyota Yaris », on va tous avoir la même image en tête. Si vous aimez les voitures roses, votre image mentale aura une esthétique différente à la mienne, mais le modèle restera une Yaris. Donc, pour un modèle d'affaires, ça veut dire que la façon de faire des affaires ou la logique derrière est un modèle que l'on peut répliquer. Notre Yaris restera la même qu'elle soit dans une entreprise ou dans une autre. Un modèle d'affaires sert à expliquer trois composantes d'une organisation. La façon dont elle crée de la valeur, la façon dont elle livre la valeur à ses clients et la façon dont elle capte la valeur. En d'autres mots, c'est comment elle construit son produit ou son service, comment elle la livre à son client et comment elle se fait payer. Pour une entreprise comme Tim Hortons, on regarderait les processus qui lui permettent d'avoir du café dans ses 5000 établissements, la façon dont elle interagit avec ses consommateurs au service à l'auto et la façon qu'elle utilise son application mobile pour se faire payer. Le défi, c'est que peu importe l'entreprise à laquelle vous pensez, les combinaisons à ces trois composantes-là peuvent sembler infinies. C'est ce qui fait que lorsqu'on regarde une entreprise, peut-être même celle dans laquelle vous travaillez, votre modèle d'affaires a l'air bien complexe et très difficile à déchiffrer. Pour nous aider à démêler tout ça, trois chercheurs d'une université en Suisse ont fait un travail de moine pendant plus de 10 ans, en étudiant plusieurs centaines d'organisations du début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ils ont réussi à démontrer qu'il existe 60 modèles d'affaires en 2022. Et en plus, ils ont réussi à démontrer qu'il y en avait seulement 9 au tournant du 20e siècle. En gros, ces chercheurs-là ont réussi à amener le mot « modèle » dans « modèle d'affaires ». De s'assurer que quand on parle d'une façon de créer, de livrer ou de capter de la valeur, on parle toujours de la même chose, peu importe le type d'entreprise ou le type d'industrie. Je vous donne un exemple bien simple, l'abonnement. Selon leur étude, l'abonnement est le 48e modèle d'affaires. Ce modèle aurait été créé par des marchands de livres allemands au 16e siècle. Un Allemand moyen, à l'époque, ne pouvait que se payer un livre par an, ce qui n'est pas l'idéal quand c'est une des premières sources de divertissement. Pour pallier à ça, des marchands ont mis en place un abonnement annuel qui permettrait à ses clients de lire plusieurs livres par an pour le prix d'un seul. Ce modèle d'affaires est aujourd'hui l'un des plus répandus. On le voit dans le divertissement, comme Netflix, dans les entreprises de télécom, comme Bell, dans des magazines comme le Harvard Business Review, dans la nourriture, comme Cookit, et même dans la musique, comme Spotify. Ces industries n'ont rien à voir une avec l'autre, mais la logique, le modèle est le même. Un montant mensuel ou annuel passe sur votre carte de crédit. Et c'est ce qui fait que, comme consommateur, vous regardez votre carte de crédit à la fin du mois et tout d'un coup, Netflix est en compétition avec votre revue préférée. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme l'abonnement, il y a 59 autres modèles qui sont ramenés à leur forme la plus simple et qui présentent les 60 façons de faire des affaires. Ces modèles peuvent ensuite être répliqués d'une industrie à l'autre ou d'une entreprise à l'autre. Ce qui est incroyable avec cette étude, c'est qu'on peut maintenant regarder une entreprise vraiment différemment. Pour le démontrer, écoutez ce montage musical de quelques secondes. Aïe aïe, j'ai mal aux oreilles. Vous avez peut-être reconnu Beethoven, les Beatles et Lady Gaga, mais est-ce que c'était vraiment souhaitable de toutes les écouter en même temps? Pourtant, c'est exactement ce qu'on fait avec nos organisations. En les voyant comme un seul gros modèle d'affaires, c'est comme si on empilait plusieurs modèles un par-dessus l'autre jusqu'à ce que ça soit très désagréable à analyser, comme je viens de faire avec le segment musical. Grâce à l'étude sur les 60 modèles d'affaires, on peut maintenant regarder une organisation et se dire « OK, il y a combien de modèles logiques ici? » Tout d'un coup, le portrait devient beaucoup plus clair. On peut placer chaque modèle un à côté de l'autre et arrêter de les analyser en simultané. Tout comme la musique, ça rend l'exercice beaucoup plus agréable. Donc, quand je vous dis qu'une PME a entre 3 et 8 modèles d'affaires, c'est ce que je veux dire. C'est ma façon de venir décomplexifier l'entreprise pour aider à prendre de meilleures décisions par la suite. Pour le fun, j'ai aussi fait l'exercice avec Amazon. Selon vous, combien il y a de modèles d'affaires chez Amazon? 5? 10 peut-être? 15? Amazon a 23 modèles d'affaires différents. Je vous disais un petit peu plus tôt que Tremblant et le Théâtre du Nouveau Monde partagent 6 modèles d'affaires. Maintenant que vous connaissez l'étude sur les 60 modèles, laissez-moi revenir sur cet exemple. Une montagne de ski vend des abonnements, mais elle vend aussi des billets en prix fixe. Elle vend ses abonnements et ses billets directement à ses clients, sans intermédiaire. D'ailleurs, elle investit beaucoup en marketing pour vous vendre une expérience qui va au-delà du simple produit. Il va avoir des soirées thématiques ou encore des nuits blanches. Elle vous donne aussi accès à des add-ons, comme une école de ski, et fait de la vente croisée, notamment avec ses restaurants et ses bars. Finalement, si vous êtes abonné depuis un certain temps, vous aurez droit à certains privilèges, ce qui va augmenter votre loyauté à la marque. Ce que je viens de vous présenter, c'est 7 modèles d'affaires. L'abonnement, les taux fixes, la vente directe, la vente d'expérience, les add-ons, la vente croisée et la fidélisation client. Certains d'entre vous diront « Mais Arnaud, c'est purement du marketing et c'est pas des modèles d'affaires. » Détrompez-vous. Si c'était du marketing, je vous aurais parlé du produit, ce que je n'ai pas fait une seule fois. Ce sont vraiment des façons de livrer de la valeur et de capter de la valeur pour chaque consommateur. Maintenant, pour le théâtre. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi acheter un billet à l'unité. La forte majorité des billets sont vendus en vente directe, sans intermédiaire. Un théâtre investit beaucoup dans son marketing et ses partenariats, notamment pour vous offrir une expérience qui va au-delà de la pièce, par exemple avec une nuit à l'hôtel. Elle vous donne accès à des add-ons, comme de la marchandise ou des livres qui agrémentent la pièce et de la vente croisée avec ses restaurants ou son bar dans le lobby. Et finalement, si vous êtes un client fidèle, vous aurez droit à des privilèges, comme l'accès à une pièce privée ou encore de rencontrer les acteurs en coulisses. Vous voyez ce que je viens de faire? La logique d'affaires est la même, c'est le contexte qui change. Cela dit, pour chaque modèle, un théâtre pourrait se tourner vers une station de ski et se questionner. Comment fonctionne leur abonnement? Peut-on s'en inspirer chez nous? Et lorsque je vous disais que McDonald's a copié Tim Hortons, c'est parce qu'on doit à Tim Hortons le concept de shop in shop, soit l'idée d'installer des versions miniatures de ses magasins dans des dépanneurs. Ça leur a permis de bénéficier du trafic du dépanneur, mais aussi de faire bénéficier du dépanneur l'achalandage supplémentaire. La moyenne de facture pour les deux a augmenté, tout en minimisant les coûts d'espace. McDonald's et Walmart ont repris le même concept, à un point tel que la majorité des Walmart ont maintenant un McDonald's dans leur magasin. Un mariage très lucratif pour les deux partenaires. Certains d'entre vous se demanderont où cadrent les technologies et la transformation numérique dans nos modèles d'affaires. Effectivement, le numérique a profondément fait évoluer le champ d'étude des modèles d'affaires au cours des dernières années. Plus d'une trentaine de modèles d'affaires sont directement liés à l'ascension des technologies. On pense notamment à des modèles démocratisés par Meta, Google ou Uber et qui ont été dupliqués dans plein d'autres industries par la suite. C'est une source d'inspiration importante pour tous ceux et celles qui veulent innover grâce à leurs modèles d'affaires. Par contre, de ma perspective, le plus important est ce que les modèles d'affaires ont amené à la technologie et non l'inverse, soit un guide de comment les utiliser. Prenons un exemple que l'on connaît tous, le commerce électronique. Pour beaucoup, le commerce électronique est juste un autre canal marketing qui ne va pas vraiment avoir d'incidence sur le reste de l'organisation. Pourtant, c'est non seulement un gros projet de transformation numérique, le commerce électronique est un nouveau modèle d'affaires pour l'entreprise. Oui, l'accent est mis sur la façon dont on livre la valeur, mais ça a aussi une incidence profonde sur la façon dont on la crée. Il va y avoir des changements au niveau de l'approche de logistique, de stockage, d'approvisionnement et de partenariat. Au niveau RH, il faut aussi se doter d'expertise capable de gérer des projets de ce type-là. Au niveau marketing, il faut maintenant passer au numérique avec une toute autre approche de conversion de nos clients. Bref, Quand il est question de technologie, de numérique et de modèle d'affaires, j'invite toujours mes clients à voir la technologie à travers le prisme du modèle d'affaires. Comment est-ce que ça vient faire évoluer la façon dont on crée, livre et capte la valeur? Si cet épisode hors série vous a plu et que vous voulez en savoir davantage, je vous invite à visiter legien.com/balado et à écouter les autres épisodes de la série.